Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Muchas gracias, Laetitia Gaillet. C'est juste au cas où on nous écoute également en Espagne. Merci pour ces informations. Oh, arrêtez de rire, vous. C'est parti! Alex.
Salut Charline.
Allez, avant-dernière journée de Florilège.
Alors, j'y ai pensé.
Non, laisse ça à des gens compétents. J'ai pensé à l'émission avec François Cluzet, parce qu'il y avait une bonne ambiance.
Oui, bah, Hippolyte Girardot a fini à poil. Et donc,
ouais, mais c'est parce qu'il faisait une chronique sur le film. Oui. C'est Normandie nue, tu sais, que François Cluzet.
Je sais bien.
Enfin, ouais, c'était un hommage.
Oui, enfin, Hippolyte à poil, c'est un hommage, je sais pas. Pas à son préparateur physique, en tout cas.
Mais attends, il est très très bien, Hippo. Tu t'es vu, toi?
Ouais, c'est pour ça que je reste habillé, moi. Ouais. D'ailleurs, en parlant de nu de qualité, en deuxième émission, je voudrais qu'on choisisse Laetitia Doche.
Attends, nu de qualité. Laetitia Doche était venue habillée, je comprends
pas. Bah oui, malheureusement. Mais on avait parlé de sa pièce de Duras, où elle apparaissait nue. Ouais. Et alors, ça avait fait le running gag pendant l'émission.
Oui, je me rappelle. Voilà. J'avais la grippe, je vous ai écouté depuis mon lit.
C'était le bon temps, c'était moi le chef.
Ouais, mais on peut pas faire ça à l'auditeur. Choisir une émission dans laquelle je ne suis pas.
Bah,
ça,
c'était
non.
Une toute bonne émission.
Salaud.
Non, papa, non, pas parce que t'étais pas là. J'avais pas fait le lien, mais.
Moi qui souffrais pendant que vous étiez là à rigoler.
On changeait le monde.
J'avais 48 de fièvre au fond de mon lit.
T'exagères un peu. Non, on va choisir celle-là parce que comme ça l'auditeur appréciera toute la subtilité de ma gestion de l'antenne et puis
très bien prenons celle-là voilà
super.
Comme ça tout le monde s'en rendra bien compte
de
combien je suis indispensable à cette émission.
Détends-toi.
Je crois que je fais une rechute.
Ça va aller.
Passe-moi le thermomètre parce que là je suis au-delà des 50 là.
Allez, c'est ça, allez au boulot.
53, j'ai 53. Bonjour la France Inter, bonjour à ceux qui réussissent et qui sont en vacances avec la zone C, et bonjour à ceux qui ne sont rien et qui travaillent dans la zone C. Aujourd'hui, nous sommes en marche avec François Cluzet pour parler des industriels de la viande qui attaquent les véganes et des hommes chinois qui prennent des cours de drague. Et puis attention, vous l'aurez compris, cette première partie d'émission finira à poil. Et en chemin, on embarquera Laetitia Doche pour parler de ce sujet de fond, essentiel, le dress code à l'Assemblée. Et puis le café pour les traders où le prix du petit noir suit les montagnes russes de la bourse.
Ben voilà.
N'est-ce pas Alex Vizorek?
C'est moi qui avais choisi les sujets à l'époque, Charline Badonnaker, ça se ressent un petit peu. Alors sur mon plateau apéro du jour en chroniqueur, j'ai Hippolyte Girardot, ce qu'il en reste. Je vous le conseille cette chronique.
En slip.
Guillaume Meurice, qui s'est posé la question, mais que doit faire chaque Français le matin en se réveillant pour aider la nation? Il est allé leur demander. Enfin, Isabelle Sorrente sur le sentiment de réminiscence, le déjà-vu. J'ai même pas compris l'intitulé en vous le donnant. Et puis, on terminera avec Frédéric Fromet, qui tentera de réparer l'image de Lactalis. Autant dire, c'est pas gagné.
3, 2, 1... Tous à poil avec François Cluzet!
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Vous venez nous voir, François Cluzet, pour un nouveau film qui s'appelle Normandie nue de Philippe Leguet. Un film, je vous le dis tout de suite, qu'on a adoré, n'est-ce pas, dans l'équipe, unanimité dans l'équipe. Un film où vous êtes agriculteur et maire de la commune de Mel-sur-Sarthe, dans le Perche, en Normandie. Et le hasard vous amène Blake Newman, qui est un illustre photographe américain, mais très conceptuel, qui fait des photos de gens nus. Choc des deux mondes, donc, bien sûr. Mais pas que ça. Surtout une immersion dans un village qui vit de l'agriculture, une population prise à la gorge jusqu'à des cas de suicide, mais qui cherche à s'en sortir sous votre impulsion, celle du maire. C'est drôle, c'est une comédie sociale, on peut dire. Première question, ça s'appelle Normandie nue, et c'est là tout le nœud de l'histoire. La notion de nu comme arme, mais justement, c'est en milieu rural, chez les Normands, donc la nudité permet de raconter des choses de la région et de l'époque, non ? Dans ce film.
Surtout, il y a une réplique assez drôle d'un agriculteur qui dit, vous savez... Les Normands, même en plein été à 40 degrés, ils n'enlèveraient jamais leurs pantalons ni leurs chemises, quoi. Ils sont vraiment les gens les plus pudiques qui soient. Ils sont beaux crevés de chaud, ils restent avec leurs pulls. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Bah là, donc, dans le rôle que vous tenez, hein, le maire, ouais. Georges Balbuzard, qui cherche par tous les moyens à sauver ses agriculteurs et à mettre les projecteurs dessus, vous allez devoir les convaincre de se mettre à nu.
Oui.
Et c'est de là que se développent les histoires.
Bien sûr. C'est-à-dire que ça arrive après une manifestation qui pense être porteuse. Il bloque une autoroute et finalement, on n'en parle même pas à la télévision. Ou alors, on interview le Parisien du coin. Quoi.
François-Xavier de Maison dans
exactement.
Le film.
Donc, ils sont évidemment très vexés. Et puis, arrive ce photographe américain qui veut faire poser 300 paysans nus dans un champ dont il est le maire. Et il se dit que c'est peut-être l'opportunité pour faire parler du village, que ça sera autrement plus dupliqué et entendu. Sauf, comme je vous le disais, que déshabiller des Normands, c'est pas si simple. Le film consiste à ce que je les persuade que c'est la nécessité oui. de notre manifestation.
Quoi. Et c'est comme ça qu'on s'attache aussi à chaque personnage ou à chaque couple de personnages. Clara Dupont-Monod, vous vouliez dire quelque chose?
D'abord, le peignoir vous va très bien, parce qu'on vous voit
oui.
un moment en peignoir.
Oui, oui, oui.
Ça, c'était le petit compliment.
Merci.
Mais surtout, vous...
Maintenant, la critique.
Éclinu.
Je n'ai pas osé le dire, absolument. Mais il y a pas mal d'acteurs et d'actrices amateurs
oui.
dans ce film.
Oui.
Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi ?
Je crois que c'était la volonté du metteur en scène d'essayer de rattraper aussi les agriculteurs qui n'ont pas besoin qu'on leur invente des dialogues parce que la crise agricole est quelque chose qu'ils vivent en permanence. Donc Le Guay, le metteur en scène, s'est rendu, comme on le disait, il a une maison dans le coin, mais ensuite il a été voir tous ces agriculteurs et les a fait parler pour imprimer sur son script l'idée forte de la crise agricole. Quoi.
Donc ce sont des vrais gens du coin.
Ce sont des vrais gens du coin. Et alors c'était très intéressant parce que Hippolyte le sait, quand on a affaire à des acteurs amateurs, toujours un peu surprenant parce que soit ils jouent un peu, et à ce moment-là, c'est pas terrible.
Soit vous il joue pas du tout. Et... amateur.
Ouais, franchement, c'est pas cool.
Faut être écoute-moi de Francis Cluzon, là.
Laissez parler, Francis Cluzon.
Soit il joue pas du tout, mais alors ils sont tellement dépositaires d'une vérité, puisqu'ils disent ce qu'ils pensent, que c'est à nous de coopérer avec eux, d'être dans cette même vérité. Mais c'est toujours intéressant, parce que finalement, les acteurs, tout ce qu'on aime, c'est la contrainte, quoi. Si tout roule, ça va pas. On a tendance à maîtriser si tout roule. Alors que s'il y a la moindre embûche, ça nous permet
c'est comme Vizorek avec les filles. En fait.
Sur le métier d'acteur, vous avez dit une phrase qui me décomplexe toujours de jouer. Vous avez dit « je ramène tout à moi ». Parce qu'à un moment...
Non. Il en a fait sa devise de vie.
Parce que
en fait.
Souvent, parfois un rôle ne va pas parce qu'on n'arrive pas à le ramener à soi. Et je trouve que c'était hyper juste. Qu'est-ce que vous avez ramené de vous dans ce rôle-ci, du coup ?
J'essaye toujours d'avoir, dans mes choix, un écho intime avec le sujet. Mmh. En l'occurrence, moi, je suis petit-fils de paysan. Donc, vous pensez bien que toute mon enfance, j'ai passé dans les Hautes-Pyrénées, que je connais les vaches, le petit élevage, le potager, le poulailler, comment on tue les pigeons et tout le reste, la braconne et compagnie. Donc, je me sentais concerné un peu par cette histoire.
Ah, parce que vous y mettez du vôtre dans les vaches.
Oui, c'est vrai.
Cette histoire d'acteur, si vous voulez, qui ramène tout à lui. Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Je suis passionné. Je suis pas le seul. Je me suis dit, mais comment il faut faire? Et puis après, il y a eu cette école de l'acteur studio, le jeu organique. Alors, finalement, c'est vrai qu'un interprète, c'est d'abord un squelette et des viscères et des organes, quoi. Et si on accepte de s'abandonner, alors, finalement, on donne de soi des choses qu'on ne connaît même pas de soi. Des réactions, et c'est là l'intérêt. C'est d'avoir un partenaire. Un acteur, c'est un partenaire. Si on a un partenaire très généreux qui a abandonné en face de vous, ça vous déstabilise. Si vous pouvez lui renvoyer la parole, la même chose, alors là, la caméra a un intérêt. Elle filme un échange singulier.
Il y a de la vérité.
Autrement, elle n'a pas trop d'intérêt. Si les acteurs jouent seuls, on s'ennuie beaucoup.
Et il y a un détail que vous devez à la costumière Elisabeth Tavernier qui fait que vous entriez plus facilement dans le personnage.
C'est l'épilation intégrale.
Non ?
On la remercie d'ailleurs.
Dans le costume.
Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je cherche toujours à beaucoup travailler les costumes parce que je viens du théâtre et je sais qu'en mettant son costume au théâtre, on est un peu ému. Et le fait d'être ému en mettant son costume, eh bien, ça nous lance sur cette sensibilité, sur cette fragilité.
C'est le déclic. Les pompes, les chaussures, par exemple, ou les bottes ?
Tout, absolument ouais. Tout. Là, les pompes, c'était drôle parce qu'il m'avait trouvé des baskets, mais qui étaient très parisiennes. Alors, j'ai dit, mais je me reconnais pas en paysan de mettre ça. Alors ils ont été chez les vendeurs de chaussures du coin et ils m'ont trouvé un truc où j'avais du mal à les garder pour moi.
Well,
Well, well, well, Grace Jones. Vous êtes sur France Inter et François Cluzet est en notre compagnie. Et voici le premier sujet. Ces industriels de la viande qui n'étaient pas prêts à subir l'attaque des associations de défense des animaux. Et ils n'ont pas vu venir non plus la vague des végétariens. Mais aujourd'hui, ils arrivent en masse.
La vague.
On est là. Telle des réfugiés. Mais vous savez, c'est combien? Voilà, l'offre de produits végétariens en supermarché a bondi de 82% l'an dernier. Si c'est pas une vague, ça, dites donc.
C'est une invasion.
C'est une invasion.
Une vague vague.
Mais donc aujourd'hui, oui, les usines à barbac ripostent avec un slogan pour sauver un paysan, manger un vegan. Allez, amorçons le débat.
Alors, venons-en tout de suite à la question que se posent avec moi tous les Français. Comment comptez-vous lutter contre le beefsteak à 80 francs le kilo?
Mais non, mais mon cher ami, alors là, nous sommes dans un autre univers. Moi, je vous parle de ce que les gens connaissent. Nous parlons macreuse et plate-côte.
Oui, bah écoutez, parlons plate-côte, je ne suis pas secteur.
Bon, alors vous savez combien ça coûte le plate-côte?
Mais certainement, certainement.
Alors donnez-nous un chiffre.
Mais écoutez, je ne peux pas vous dire à un franc près, il faut tenir compte des indices saisonniers, des coefficients.
16 francs le kilo
oui,
le plate-côte.
Vous êtes très au courant.
Vous vous rendez compte à combien ça vous revient faire malheureux pot-au-feu? Bon, vous avez vos légumes et votre saucisse. Bon, et eh ben alors. Vous ne devez pas manger souvent de pot-au-feu.
Ah, ça, je ne vous permets pas de dire ça. Si ouais. Monsieur Perrin, je mange du pot-au-feu. Comme tous les Français.
C'est ça, et vous ne mettez pas de saucisse dans votre pot-au-feu. Alors qu'est-ce que vous mettez?
Mais je mets comme tout le monde, je mets des légumes, du jarret.
Le jarret. Combien ça coûte, le jarret?
Mais écoutez, le problème n'est pas là.
Mais vous permettez que j'expose mon programme?
Et ça continue comme ça parce qu'ensuite, il y a de la saucisse dans le pot-au-feu. C'est ce que défend Michel Serrault devant Roger Carrel dans La gueule de l'autre, film de Pierre Tchernia. C'est une scène que je vous conseille de revoir dans son intégralité. Là, on a pris qu'un petit bout. On a pris que le plat de côte, pour ainsi dire. Alors, c'est vraiment le cœur du film Normandie nue aussi. Il n'y a pas que la nudité. La population du village va se mettre nue pour sa cause, parce que c'est un village d'agriculteurs qui est étranglé. On aborde tous les sujets afférents à ça, c'est-à-dire la vente dans les supermarchés, les marges, la lutte, etc., et le quotidien. Quelle est finalement la vision du débat dans ce film? Parce qu'elle semble, c'est le point de vue des agriculteurs, mais il y a quand même beaucoup de nuances, il y a plusieurs points de vue par rapport aux personnages.
C'est quand même le sujet de fond, c'est-à-dire, et souvent dans les comédies, vous avez besoin de partir d'un drame. Ouais. Et c'est votre comportement face au drame qui peut faire rire, parce que souvent on est ridicule dans son comportement. Là, le sujet de fond, c'est la crise agricole. C'est terriblement triste à dire, 300 agriculteurs qui sont suicidés en un an. Vous imaginez, c'est colossal, quoi.
Donc, oui, le film n'élude pas ça d'ailleurs, même si c'est une comédie.
Ouais. Et alors, dans une comédie, il faut toujours ramer beaucoup pour essayer d'être digeste et léger, quoi. C'est Chabrol qui disait ça quand on avait fait un film qui s'appelait L'Enfer. Il m'avait dit « T'inquiète pas, on va rendre ça digeste. » Parce que moi, c'était une espèce de dingo. Je me faisais beaucoup de soucis. Ce sujet de fond. C'est pour ça aussi que c'était très agréable d'avoir ces agriculteurs qui tenaient des rôles à l'intérieur du film. Parce que eux-mêmes, si vous voulez, étaient... content de pouvoir en faire un film et en rire presque, parce que quand on est 50 ou 60 sur un plateau, on tente quand même la bonne humeur.
Au point de manger de la barbac sur le tournage, j'imagine quand même.
Non.
La viande du coin, non.
Ah mais c'est drôle, vous savez, il y a une scène dans le film où la fille dit à Arthur Dupont, mais mange pas ça, vient de Pologne.
Ils sont dans le supermarché, et il y a une viande qui vient de Pologne, et il y a une viande dans le supermarché, mais qui vient de chez les agriculteurs. Donc on est vraiment dans, c'est aussi la réalité, c'est-à-dire que les agriculteurs, c'est pas que le côté, rural, bucolique, c'est-à-dire qu'ils vendent leur viande au supermarché, on peut l'acheter au supermarché.
C'est manger local, c'est-à-dire qu'en Dordogne, on doit manger que de la truffe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? À Cambrai, que des bonbons.
Et de l'andouille, pas loin, en Normandie.
À Vire.
Et vous, quelle est votre vision de la chose? Parce qu'on a le sentiment d'amorcer un carrefour de choix de société entre diminuer la consommation de viande, mais pas laisser crever les agriculteurs, la transition.
Moi, je me souviens que quand j'étais môme, on bouffait que de la viande. Du rôti de dindono, je vous le conseille d'ailleurs. C'est vraiment fameux.
Pourquoi? Parce que les parents sortaient de la guerre
non, parce
et
que
tout
mes
ça.
Mes parents étaient commerçants et tout ça. Quand vous tenez un commerce de journaux comme ça, vous êtes sans arrêt pris par les clients. Il n'y a pas le temps de faire la cuisine, quoi. On foutait le rôti de dindono dans le machin et trois quarts d'heure après, on le sortait. Et moi, avec mes enfants, et j'ai cinq enfants, j'essaye souvent de limiter la viande. C'est-à-dire, bon, parce que je l'ai entendu comme tout le monde. Donc une fois, deux fois, et deux fois du poisson dans la semaine, le reste, quinoa, légumes et tout le machin.
On dose.
Ce qui m'a totalement surpris, je ne sais pas comment c'était pour vous, mais quand on a attaqué les pets des vaches, en disant
c'est mauvais pour l'environnement.
C'est très dangereux. Alors, je me dis, mais quelle solution? Est-ce qu'on peut leur mettre un ballon dans... récupérer ce gaz?
Il y en a qui le font.
Faire de l'énergie.
Ça existe.
Oui, c'est vrai.
Les paix et les roues des vaches aussi.
Ah, c'est drôle.
Voilà. Et donc, la transition s'annonce donc difficile sur ce sujet.
Ah, bah, c'est sûr.
Bien sûr.
J'en avais une, mais.
Non, bah, voilà, on va voilà, s'abstenir.
Hippolyte Girardot, vous avez donc visionné Normandie nue de Philippe Leguay.
Non, parce que moi, quand j'ai commencé dans le cinéma, François, c'était un peu le meilleur d'entre nous, il faut le savoir.
Ah.
Eh oui, c'était pas un grand frère, parce qu'il y avait les deux dés, hein, il y avait deux verres de Pardieu, mais c'était un collègue. Et un bon, quand même, sans vouloir. Hein. Un bon, une façon d'être charmant et intense, d'être sincère, mais habile, d'être familier, donc admirable, un talent. D'ailleurs, il a eu un César pour un type atrabilaire qui s'énerve tout le temps, et un succès mondial pour un type qui bouge à peine un œil. Donc, à part tenter de jouer le rôle d'une chaise hein, pour avoir un Oscar, je vois pas bien ce qu'il pourrait faire pour nous étonner encore, celui-là. Et un jour, il m'a fait un compliment, et j'étais content. Je dis, bon, d'accord, pourquoi pas, Cluzet, formidable, génial. Mais pourquoi ? Normandie nue, me dit-on. Je regarde donc le film. Moi, je l'aurais bien appelé dans le plus simple appareil, vu que c'est l'histoire d'une photo de gens tout nus. Mais c'est pas le style du réalisateur, pour qui les femmes sont du sixième étage, Alceste est à bicyclette, Philippe est le gay, et la Normandie, donc...
Nu,
merci, pas à poil. Et donc, en regardant cette comédie, je me demandais néanmoins, mais quel était le sujet de ce film?
Et là, je déboutonne.
La crise paysanne, non. Malgré la crédibilité des acteurs,
oh merde,
la
beauté mal.
Des paysages de la région de l'Orne,
Hippolyte.
Et surtout la performance des vaches, des chèvres, je me dis non, ce film n'est pas à la paysannerie ce que Macron est au foutage de gueule. La crise politique, bon, bien sûr, vous interprétez un maire qui essaie de sauver son village, mais n'ayant pas d'étiquette politique, c'est plutôt Astérix qui résiste que Mélenchon qui combat Lactalis. Et puis j'ai compris.
Votre
le corps dit
c'est la nudité.
Il faut dire qu'il est en train de se déshabiller.
Évidemment,
aux auditeurs.
Montrer ou ne pas montrer son cul, ça tease the question, mon cher acteur, n'est-ce pas? Alors, je venais de lire un article de la RTBF.
Pour
la
fin, c'est filmé.
Hein.
Oui, c'est filmé.
Je venais de lire un article de la... Les Belges, calmez-vous. Je venais de lire un article de la RTBF sur le naturisme au Vietnam. Alors là-bas, c'est beaucoup moins évident que dans le Perche. Bon, pour faire bref, car cela mériterait 3 heures sur France Culture, en Asie, montrer son intimité est absolument tabou et donc révolutionnaire. Les naturistes vietnamiens insistent sur le sentiment de liberté que leur procure le fait de se déshabiller.
Il enlève sa montre.
Loin des normes imposées depuis l'enfance dans ce pays à parti unique où, président Macron, vous m'entendez, où tous les médias sont contrôlés par le régime. Ce qui est drôle, c'est qu'ils sont pour la plupart fonctionnaires. Ah, je ne sais pas, un maire est-il fonctionnaire? On peut se souvenir qu'en Chine, des internautes avaient posé des photos de tout nus, c'est pas facile,
il enlève son
pour
chute.
Soutenir Ai Weiwei, qui avait posé nu, entouré de femmes nues, chinoises et souriantes. On se souvient des strikers sur les terrains de foot, on connaît désormais l'action des femmes et l'audace des chroniqueurs.
Mais son slip,
être à poil est un acte de protestation contre l'oppresseur, un acte politique pour défendre des valeurs, comme celle de l'audiovisuel public. Ou non, nous n'avons pas honte. Chroniqueurs, chroniqueuses, animateurs, animatrices, producteurs, productrices, déshabillons-nous pour bien montrer qu'on a du poil au cul.
Ouais,
ouais. Bravo.
Et chez lui, c'est Franck qui sort dans la rue comme ça.
Ils sont venus dans les couloirs.
Hippolyte vient de quitter le studio, il est en slip et chaussettes. Si vous le croisez, amenez-le nous. C'est François Cluzet, c'est étonnant.
Bah, ce mec est dingue, complètement. Et tant mieux, moi je l'aime beaucoup, donc plus il sera dingue, plus je serai content.
Nous aussi, on l'adore, dingue comme il est. Voilà, il est parti, mais bon, je suppose qu'il va revenir. Et on va aborder ce dernier sujet. En Chine, les hommes se tournent vers des cours de séduction. C'est une conséquence de la politique de l'enfant unique. La population masculine dépasse de 34 millions la population féminine. Aborder une femme est donc très problématique. Ces séminaires proposent des solutions. Et oui, alors en Occident aussi, c'est une préoccupation, surtout pour les plus romantiques d'entre nous, qui se fendent parfois encore d'une lettre, rappelez-vous.
Et dans cette nature étrange et symbolique, où l'ange inviolé se mêle au sphinx antique,
faut la vie, je
vous dis. André, je fais passer beaucoup plus de choses par l'écrit, d'accord?
D'accord, mais moi je vais trouver son numéro de téléphone parce que ça commence à me stresser, votre truc.
Eh oh!
Putain, elles viennent Dunkerque, c'est pas bon ça. J'ai jamais vu de Miss France qui venait de Dunkerque. En général, elles sont chum là-bas. Hein.
Allez, reposez ça immédiatement.
Putain, elle a mis son numéro de téléphone.
Allez, reposez ça, s'il vous plaît.
Mais qu'est-ce que vous voulez, Philippe? Elle a mis son numéro de téléphone à la main, ça veut dire quoi? Appelle-moi, je vais te lécher l'oreille. Elle s'en fout de la poésie, elle. Téléphonez-moi. Je vous dis.
Pourquoi je parle pas?
Ça marche en radio aussi, hein, intouchable, bien sûr. C'est un long article paru dans le Figaro aujourd'hui, que l'on doit au correspondant à Pékin. Effectivement, établir la communication avec le sexe opposé est problématique. Il y a la culture chinoise, mais il y a aussi les conséquences dramatiques de la politique de l'enfant unique qui s'est arrêtée il y a 2 ans. C'est donc toute une montagne pour les Chinois. Vous auriez des conseils à leur donner? Vous, comment vous abordez le contact,
Chinois,
la séduction?
Ils écoutent.
Vous ne pouvez pas vous rendre compte.
Allez,
si vous m'aviez prévenu, j'ai des dossiers à la maison, le conseil à donner aux Chinois.
Pour la drague.
Mais, et sur la drague, bien sûr, uniquement.
Est-ce que comme acteur, vous ramenez tout à vous dans la séduction aussi?
Oui, c'est très bien séduire.
Moi, j'ai été élevé entre mon père et mon frère. Autant dire que vraiment, j'avais absolument aucune idée de comment pouvait fonctionner une fille ou une femme.
Bah, nous aussi, on est dans cette question-là. Alors là, c'est un miroir extrêmement grossissant en Chine, mais on est tous, c'est universel comme question d'aborder l'autre sexe.
Bah justement, en parlant d'aborder, Charline, les cours qui sont dispensés aux Chinois, là j'ai l'article du Figaro sous les yeux, on propose au gars, il y en a un qui le fait, l'article s'ouvre comme ça, il s'élance, il double la fille, il fait volte-face, il plante ses yeux dans les siens et ouvrez les guillemets, bonjour, j'aimerais faire votre connaissance. Alors, je m'excuse à ceux qui ont dispensé cours de drague en Chine. Voilà,
c'est
exactement. A priori, ça a fait fuir la fille. Michel Fourniret devait procéder pareil. Vous pourriez aborder une fille comme ça ou
en lui disant
vous la doublez, vous faites volte-face, vous plantez ses yeux dans les siens et vous dites bonjour, j'aimerais faire votre connaissance. Ça vous est déjà arrivé?
C'est-à-dire la matière cache.
Généralement, je rajoute, je vous reconnais.
Je
vous reconnais.
Mais c'est un super truc, vous voyez, pour aller donner un séminaire.
Maintenant, je suis imbattable. Regardez ça, c'est terrible. Quoi. Moi-même, ce succès. Non, moi, j'avais un drame quand j'étais petit, c'est que j'étais petit. Mais vraiment petit. Je faisais 1m49 à 16 ans. Vous voyez le genre. Et alors, j'étais traumatisé parce que dans toutes les booms, les filles n'aimaient que les grands. Alors, il y avait toujours une tête
de grand
qui dépassait.
Oui, mais parce que les grands, c'est mieux.
Il y a toujours un grand satisfait pour dire c'est mieux.
Ah oui, les booms, c'était un problème, les slow.
Ben non, on n'y pensait pas. Quand je suis allé en Angleterre, j'étais tellement petit que la fille m'embrassait sur la chaussée et moi, je restais sur le trottoir. Autrement, je n'arrivais pas à l'embrasser.
Donc, mais ça veut dire que vous aviez établi le contact, donc.
Ah oui, par contre, oui.
C'est vrai.
J'étais dans l'escabeau, des fois.
Et puis, il y a la conclusion de cet article que je vous livre. Hein, comme la plupart des hommes n'osent pas accoster les femmes dans la rue, ceux qui franchissent le pas ont toutes les chances d'arriver à leur fin. Ils n'ont pas de concurrents.
Eh oui, sélection naturelle.
C'est comme ça, aussi ici. Hein.
François Cluzet, on va revenir à votre corps de métier avec une proposition de sketch.
En fin d'émission, on propose à l'invité un sketch qu'il découvre. Okay. Vous êtes éditeur, François Cluzet, parce que Najat Vallaud-Belkacem se reconvertit dans une maison d'édition et elle va s'occuper de la collection Essai chez Fayard. Alors, elle vous en propose quelques-uns. C'est Charline qui joue Najat. On se rend tout de suite chez Fayard.
Chef, alors j'ai sélectionné plein d'essais merveilleux.
Mais non, c'est pas merveilleux.
Pardon ?
Non, c'est pas merveilleux, ce sont des essais, c'est chiant, et puis c'est tout.
Mais il y a des essais qui sont parfois réussis quand même.
Oui, mais alors ça s'appelle des réussites, bordel de Dieu.
Oui, réussite, ça me fait bizarre parce que j'ai jamais entendu ce mot. Donc
oui, ça, quand on a fait carrière au Parti Socialiste...
C'est la lutte finale, groupe
en loup. C'est bon. Alors qu'est-ce qu'on a comme essai ?
Alors, comme premier titre, j'ai sélectionné La loyauté à travers le parcours exemplaire de Manuel Valls.
Mais c'est nul. Ma fille.
Le titre est trop long, peut-être ?
Non, c'est nul, on n'y croit pas.
Moi, en revanche, ça m'intéresse.
Mais c'est quoi ce bordel ? Vous êtes qui, vous ?
Moi, je suis éditeur d'ouvrages de science-fiction, monsieur.
Mais c'est quoi le rapport entre la science-fiction et la loyauté chez Emmanuel Valls ?
Et en plus, elle est aveugle, c'est bien pour une éditrice, bravo !
J'ai d'autres titres, sinon.
Faites vite, parce qu'il est presque 18h, je vais bientôt me barrer. Mais...
Alors, j'ai déniché un ouvrage extraordinaire qui s'intitule La révolution écologique avec Emmanuel Macron.
Oh, le boulet, vous le faites exprès ?
Non, mais moi, je prends ça, par contre.
C'est ça, bon débat.
Mais vous n'aimez pas mes trouvailles
À votre avis?
À mon avis, c'est trop avant-gardiste.
Et c'est quoi votre prochain coup de génie? L'ouverture d'esprit par Laurent Wauquiez?
Ah, excellent, je prends ça, moi, oui.
Mon combat pour l'humilité par Jean-Luc Mélenchon?
Ah, ben pour moi aussi, ça, à ce moment-là.
Ouais, soumission dans la peau par Christophe Castaner?
Ah non, là par contre, je prends pas quand même, non.
Ah, c'est pas de la science-fiction, ça?
Ouvrez les yeux, ma petite dame. On est carrément au-delà.
Oh, alors, bon sang, mais qu'est-ce que je vais devenir?
C'est
moi
très simple, demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour la France et pour votre libraire.
Pour sifflé la mi-temps, on annonce la venue de...
Guillaume Meurice. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Emmanuel Macron avait présenté ses vœux aux Français, ça vous avait passionné d'ailleurs à l'époque, mm-hmm. et il avait proposé à chaque Français de se lever le matin en se demandant qu'est-ce qu'il pourrait faire pour la nation. Guillaume est allé faire un petit sondage.
C'est la période des vœux pour Emmanuel Macron. Jupiter 1er, Dieu tout-puissant, sauveur de l'humanité, maître chien de Laurent Delahousse. Hier, il a fait ses vœux à la presse devant un parterre de journalistes aux anges. Alain Duhamel a fait une descente d'organes. On a dû changer la couche confiance de Jean-Pierre Elkabbach. Beaucoup d'émotions dans ses vœux. Mais les vœux les plus remarqués étaient ceux, évidemment, adressés directement au peuple de France, hein, dans lesquels il a dit cette jolie phrase qu'on a entendue. Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour la France, pour la nation française. Voilà, c'est du plagiat de Kennedy. On ne saurait que trop conseiller à Macron d'éviter les sorties en Twingo décapotable dans les mois qui viennent. Mais il a dit cette phrase formidable. Et bien moi ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé vérifier que les Français s'étaient bien posé la question et s'ils étaient d'accord avec Macron. Alors monsieur...
Il a raison.
Il a raison?
Ah ouais, j'ai voté pour lui. Moi je crois en lui, il est jeune, il a des couilles au cul.
Il a des couilles au cul, Macron?
Ah oui, oui, oui.
Oui, alors je rappelle qu'avoir des couilles au cul est synonyme de courage. Hein, ça, voilà, c'est les subtilités de la langue française. Alors qu'avoir des ovaires dans l'anus, ça ne veut rien dire du tout. Voilà. Non, je tenais à faire un petit point sémantique pour qu'on soit bien tous sur la même longueur d'onde. Hein. Il en va de la cohésion nationale de notre beau pays. Cet autre monsieur, qu'est-ce qu'il a fait ce matin pour la nation française?
Rien.
Ah merde.
Non, j'ai un déjeuner à préparer. J'ai pensé juste à mon déjeuner.
Ah oui, ça, c'est pas top au niveau de la
top.
Nation.
Non, c'est pas top.
Est-ce que vous allez vous rattraper quand même dans la journée et faire des choses pour la nation?
Je vais réfléchir.
Bah, il serait peut-être temps de réfléchir, mon petit gars. Il était au moins 11h du mat. Macron, à la même heure, il avait eu le temps de défoncer les chômeurs d'une main tout en lançant une sardine à Christophe Barbier, hein, qui venait juste de sauter dans un cerceau avec l'autre main. Voilà, bah, lui, voilà, Macron, il œuvre pour la nation française. Hein, il dort pas beaucoup. Alors, je voulais pas laisser ce monsieur dépité. J'ai essayé de l'aider.
Qu'est-ce que vous avez acheté pour le déjeuner?
Qu'est-ce que j'ai acheté? Oh, ben là, j'ai acheté des compléments parce que mon déjeuner était prêt. Donc, j'ai acheté du fromage.
Ah, ah ben, du fromage, il y a de la TVA sur le fromage. Donc, ça, c'est bon, peut-être pour la nation.
Oui, oui, effectivement, bien sûr.
Le fromage, c'est très français. Donc, peut-être qu'on peut dire que. C'est quoi comme fromage?
C'est un Saint-Félicien.
Oui, Saint-Félicien, ça marche. Donc, vous avez fait quelque chose pour la nation, c'est bien.
Exactement, oui, bah, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas grand-chose, mais il n'a pas dit des grandes choses, Macron. Hein. Il a dit, voilà, faites ce que vous avez à faire. Achetez un bout de frometon, c'est un minimum. Alors, attention, si c'est du gouda ou du cheddar, ça marche pas. Ah, c'est technique de faire des choses pour la nation française. Cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait?
Ben, je me lève tous les matins pour aller travailler. Voilà.
Ouais.
Il est...
Ça, vous le faites vraiment pour la nation?
Non, je le fais pour moi. Pour
ah, bah ouais, ça marche pas alors.
Ah, merde. Bon, bah. Ben non, je fais rien pour la nation.
Ah, ben bah, voilà.
Voilà.
Ah, bah, comment on va s'en sortir?
Eh ben, je sais pas. Je vais partir au Portugal.
Ah, bah non, ça marche encore moins là. Elle nous fait une Florent Pagny ou une Éric Cantona. Alors rappelons d'ailleurs que ces deux-là, ils sont partis en échange de ne plus faire d'albums ni de livres en France. Donc la nation française en sort gagnante quand même. D'ailleurs, on parle de nation française, mais qu'est-ce que c'est la nation française?
La nation française, c'est tout ce qui a fait que nous avons une façon de vivre tous ensemble et nous avons une histoire et que cette histoire, eh bien, on ne peut pas la partager avec tout le monde. C'est pour ça que la terre entière ne peut pas venir chez nous parce qu'ils ne partagent pas cette histoire.
Ah, pourtant, on a une tradition de terre d'accueil.
Oui, mais pas de population comme ça qui viennent de partout. Les Polonais, on pouvait les accueillir, ils avaient la même civilisation que nous, les Italiens aussi, les Portugais aussi. Mais toutes ces populations qui viennent de partout, on ne peut pas les accueillir.
Ah, on l'aime bien là, on la retrouve la nation française, celle qu'on aime bien, celle qui accueille les étrangers, sauf quand ils viennent de partout. Hein, donc étrangers, faites un effort, ne venez pas de partout, c'est important.
Frontière suisse uniquement.
C'est bien ça, ça marche. Alors c'est intéressant, ce qui est intéressant dans le discours de cette dame, c'est que pour elle, ce qui est primordial, ce sont les valeurs chrétiennes de la France. Et moi, il me semblait bien que la charité, c'était une valeur chrétienne.
Oui, il y a l'accueil et la charité, mais pas aux dépens de la nation.
Ah, c'est marqué ça dans la Bible?
Parfaitement.
Ah ben ça, j'avais pas lu alors.
Si.
Ah, ben on n'a pas lu
la... C'est pas un humanisme.
La Bible n'est pas humaniste pour
non.
vous?
Non. Enfin, si, elle est humaniste si on veut, mais dans la Bible, c'est la charité qui prime et la foi.
Ah ben justement alors.
Oui, on nous a raconté que c'était des familles entières qui venaient, des enfants, des femmes, etc. Vous regardez les photos des femmes et des enfants, il n'y en a pas beaucoup, mais des hommes, oui, là, des hommes noirs.
Noirs.
Qu'est-ce qu'il y en a que
mais
noirs.
Ça, dans la Bible, j'ai pas bien vu non plus où c'était marqué de laisser crever les hommes noirs. En revanche, j'ai vu qu'il y avait un certain Balthazar qui offrait des cadeaux à Jésus pour sa naissance et qui semblait pas descendre tout droit des Vikings, hein, Balthou. Il faudra quand même m'expliquer où est sa famille à celui-là. Mais de toute façon, pour cette dame, même s'ils viennent en famille, le problème, c'est
que les valeurs chrétiennes ne sont plus enseignées aux enfants.
Qu'est-ce que ces enfants, est-ce qu'ils pourront aller au Louvre après ? Ne serait-ce que d'un point de vue civilisationnel, dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que ces enfants-là, après ça, comprendront ? Une adoration des bergers, une vierge à l'enfant. Bon, alors c'est terminé, le Louvre, on brûle tout, hein, et puis terminé à ce moment-là.
Bah, évidemment, on fait ça. D'ailleurs, c'est le projet final. Hein. Si des mecs risquent leur vie sur des barques, hein, c'est dans l'objectif de cramer le Louvre. Hein, ça, il faut le savoir. Et c'est d'ailleurs pour ça que Macron et Gérard Collomb les laissent crever dans des bidonvilles pour défendre la nation française. Ils veulent pas laisser brûler le Louvre. En revanche, ça les dérange pas forcément, puisqu'ils se torchent tous les jours avec la Déclaration des droits de l'homme.
Au bord de l'eau, un pigeon défunt. Pour un oiseau, mais quel drôle de fin. Sur la plage, échoue sans cesse. Je t'ai parlé vague. Joue sans cesse là-bas. À présent l'orage dort sous la grève. Tout gorgé d'eau, le sable s'élève. Puis c'est l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas. Reposé, viens là. Le soleil perce l'oiseau de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautour. Le soleil perce l'oiseau de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautour. Arrive-t-il d'un pays lointain? Se voilà-t-il au regard éteint? Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire active. Alors du temps qui passe, je remonte le cours jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver des plumes, un souvenir de plus. Du pauvre oiseau reconnu, le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vaudou. Viens que je te mette à briller des l'endroit lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Rien que je te mette à l'abri des l'endroit lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau moqueur. Pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau.
C'était l'oiseau par un groupe que vous aimez beaucoup, Alex Vizorek.
Je suis allé les voir en concert, Charline Van Denacker.
Avec Clara Dupont-Mono.
Alors là, je peux vous dire, c'était une belle soirée. J'ai pas pécho, mais on a bien rigolé.
Et c'est Feu Chatterton, donc.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Van Denacker.
Voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Alex, vous savez qui j'ai croisé à la machine à café, là ?
Ben non.
Ah ben, c'est notre invité de la deuxième partie, c'est Laetitia Doche. On aime beaucoup.
Oh là là, c'est un rayon de soleil.
Allez, c'est pour vous, c'est cadeau.
Laetitia Doche, vous venez pour nous parler alors d'une pièce surtout et d'un film aussi. On va parler de La maladie de la mort, texte de Marguerite Duras, mise en scène par Cathy Mitchell et avec vous, Laetitia Doche, Nick Fletcher et Irène Jacob en narratrice. Est-ce qu'on parle d'abord du fond ou de la forme ? Parce que je pense que la forme est importante à mettre en perspective pour les gens qui nous écoutent.
Alors on commence par la forme, c'est plus rigolo que le fond.
Ah, alors ça c'est sûr.
Parce que c'est sûr que la maladie de la mort...
Mais quand on va voir du Marguerite Duras, on s'attend rarement à une énorme poilade et on n'y va pas pour ça.
Non, voilà. C'est ça qui est bien.
Ça, c'est bien. Donc, la forme, oui, originale comme tout.
Oui, alors c'est du théâtre filmé.
C'est ça.
Ça veut dire qu'il y a 3 caméras sur scène avec les acteurs dans un décor d'une chambre d'hôtel.
Exact.
Et qui nous filme, et en fait le film est monté en direct et projeté au-dessus de la scène.
Donc tout ce que vous jouez est filmé avec vous et votre
collègue,
on va dire ça comme ça, et tout est diffusé en temps réel.
C'est ça. Alors maintenant, du coup c'est que des comptes, donc il faut savoir que 1, 2, je me mets du rouge à lèvres, parce que c'est que des comptes pour couper pour un autre plan, donc il ne faut pas se gourer.
Évidemment.
C'est vraiment une mécanique comme ça.
Et il y a un côté ballet, oui. Parce qu'ils font vraiment partie de la pièce, ces gens, ces preneurs de son et ces caméramans qui vous suivent, et les accessoiristes qui ouvrent le décor, qui changent qui ferment les rideaux, tout ça.
Ben oui, parce que le problème, c'est que dans La Maladie de la Mort, il y a des sautes de temps, ça se passe. Et donc, ça veut dire qu'il faut en 10 secondes changer les rideaux, changer de place, se déshabiller, s'habiller. Enfin, tout le monde reprend des places et ça fait comme des petits balais et tout d'un coup, ça devient grave.
Et nous, en tant que public, soit on regarde en dessous et on essaye un petit peu de voir ce qui s'y passe, d'être sur un tournage, ou alors on lève le regard et on tombe sur ce film en noir et blanc.
C'est-à-dire c'est un peu Stache, tiens, non ? Ça m'a fait penser à ça, moi.
Ah ?
Ouais, la maman et la putain, un petit peu.
Si, ah oui, il y a de ça. Il y a de ça. Et puis alors, à gauche...
Et on a notre Irène Jacob.
À Jardin, nous avons Irène Jacob, qui est dans un petit caisson avec un micro et qui fait la voix off de ce film. Donc.
Oui.
Alors moi, ma question par rapport à l'actrice, est-ce que vous jouez cinéma ou vous jouez théâtre dans ces conditions-là ?
J'essaie de jouer cinéma. En fait, j'essaie de jouer de danse. C'est-à-dire que c'est tellement de contes à compter tout le temps, c'est tellement précis. J'essaie de jouer de tableau, en fait. Donc je suis comme un tableau vivant, j'ai jamais travaillé comme ça. Donc je sais que là, c'est... Et après, j'essaie de nourrir ça le plus possible avec des sentiments.
Eh bien, et ça, tout ça marche très bien et tout ça est intéressant. Il pose beaucoup de questions. En plus, aujourd'hui, avec l'actualité, ça résonne assez justement. Laetitia Doche, vous connaissez l'émission, je pense.
Oui.
C'est donc l'heure de bosser. Et ça, vous le savez. Ouais. Je pense que vous avez un petit peu préparé.
Un petit peu.
Parce que nous, on est là pour changer le monde.
Oui, non, mais moi, je suis aussi.
C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, celle-là, elle risquerait encore bien de te changer le monde. Alors, on y va. On va commencer un petit sujet intéressant. Uniforme ou pas ? Et non, nous n'allons pas parler de l'éducation nationale, mais bien de l'Assemblée nationale. Peut-on y venir comme on veut, ou doit-on instaurer un dress code et qui sait, une police de la mode? Alors, imaginons Marine Le Pen arrivant au Palais Bourbon.
Ma chérie, ma chérie, ma chérie, bonjour. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ces looks? Donc, on va commencer déjà par le plus urgent, c'est les vêtements, parce que là, vraiment... Non, mais il faut se préparer psychologiquement, parce que ça va être radical, ma chérie, ok? Donc, on va commencer par le look,
on
d'accord?
Va,
mais ça va être dur. On va avoir de la pêche, hein? Tu vas sourire, hein? Tu vas pas piquer une crise, tu vas pas pleurer.
Ça paye comme jamais.
On peut dire du Duras et chanter du Maître Gims.
En même temps.
En même temps, idéalement. Vous avez reconnu Christina Cordula.
Et Maître Gims.
Et Maître Gims, hein, très très bien mis ensemble par Anne-Sophie Ladonne, notre réalisatrice. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça, Juliette Arnoux ?
Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on en pense ? Parce qu'ils veulent faire passer cette loi. Non, alors je m'explique. Ils veulent faire passer cette loi.
Qu'est-ce qu'on en pense ?
Ça laisse très ouvert.
Bon, bah voilà. En disant qu'il faut privilégier, qu'ils estiment que les députés à l'Assemblée nationale doivent privilégier, et je les cite, l'expression orale.
Waouh, c'est sexy.
Hein,
non, parce qu'il faut revenir sur le fait que Ruffin était venu, lui, en maillot de foot, parce que ça étayait son propos, que Mélenchon était venu avec des objets pour dire « Voyez, 5 euros, ça fait quand même beaucoup de courses », était venu avec son panier de courses.
Mais aussi, c'est l'idée de ramener du concret à l'Assemblée nationale, c'est vachement bien, moi j'ai
du
beaucoup aimé.
Aussi.
Mais oui, et c'était du théâtre, et c'est vrai que du coup, c'est clair qu'ils ont un peu volé la vedette, parce que non seulement ils sont très bons sur leurs arguments et leur façon de s'exprimer, mais en plus, ils ramènent du quotidien, des témoignages intimes, des maillots de foot d'un club, un tout petit club. Moi, j'aime bien ce genre de choses, mais...
Mais c'est vrai que c'est une forme de théâtralisation, parce que qui dit théâtre dit costume. Et donc, est-ce que c'est le lieu, l'Assemblée nationale, le Palais Bourbon, est-ce que c'est le lieu pour le théâtre ?
En tout cas, c'est un lieu... En fait, c'est-à-dire que comme ils peuvent rien faire voter vraiment, la France insoumise, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du théâtre, quoi. Pour que ça puisse parler à des gens qui, demain, peut-être voteront plus pour eux, et petit à petit, ça va grandir, peut-être, enfin... Je dis pas que je suis là pour la France insoumise, mais quand même. Et donc, oui, ils utilisent ça comme un théâtre, mais ça, c'est quand même... ça a toujours été le cas, non ? Juste, ils étaient fringués normalement, c'est tout. À part ça, ça doit être difficile de trouver le dress code de France insoumise, parce qu'on doit être moitié sérieux, moitié du peuple, quoi. C'est pas évident, je pense.
La cravate en tricot, un truc comme ça, un petit compromis pour Jean-Luc.
Non, mais le cravate, blouson en cuir, peut-être.
Ces choses très concrètes, est-ce que ça peut pas aussi... intéresser les gens à la politique, parce qu'il y a quand même, je pense, rien de plus pénible que de regarder l'Assemblée nationale à la télévision. Et peut-être que ces petites choses-là peuvent aussi marquer les
comprendre.
Gens.
Et c'est ça, moi j'ai jamais autant regardé les débats de l'Assemblée nationale, d'ailleurs j'avais jamais regardé, depuis qu'ils sont là, je regarde.
Après ils n'ont pas le monopole de ça, enfin je veux dire tout le monde pourrait du
mais
coup...
Mais c'est Cécile Duflo, qu'elle a sa jolie robe, c'est
alors,
ça
non, mais, non, c'est,
bah, ça, c'est... Pour les filles, j'ai un peu peur de ce qu'ils vont dire quoi.
Alors l'article rappelle qu'en 72, Michèle Alliot-Marie était venue en tailleur-pantalon. Et elle avait dû forcer le passage parce qu'on lui avait dit que c'était pas une tenue adaptée. Elle avait dit si c'est le pantalon qui vous gêne, je l'enlève. Hein, à l'époque, elle était dingo.
en tout cas, elle avait l'esprit d'un propos.
Et exactement. Et puis aujourd'hui, évidemment, il y a l'article se termine en disant à quand un code antisexiste aussi à l'Assemblée plutôt qu'un vrai dress code.
Ça pose aussi des questions si les députés de quelle classe ils viennent aussi, non? Si c'est des gens de classe populaire, ils vont pas s'habiller comme si c'était des gens de classe élevée, non?
Vous trouvez que si un ouvrier est élu, il doit pouvoir venir?
Je sais pas, enfin c'est bizarre d'avoir un dress code commun. Pour moi, ça l'est.
Ça fait deux fois que je suis d'accord avec vous, mais mon but est de faire semblant d'amener le débat, mais je suis tellement d'accord.
Je suis pas d'accord. Très bien en politique, j'ai pas
m'exprimer,
j'y vais
avec tâton, quoi. Non, mais c'est vrai, je trouve que ça amène un peu de folie, de cirque, et tout le monde peut le faire. Enfin, c'est pas réservé à la France Insoumise. Certes, ils l'ont utilisé en coup de com'.
Bah, surtout que si c'est pas dégradant. Or, effectivement, dans le fait même d'arriver avec un maillot de foot, si c'est un tout petit... Évidemment, c'est le club du... Le maillot du PSG, ça va être embarrassant, mais...
Ouais, là, il parlait
là ça a du sens,
c'est
ouais, un peu pathétique. Mais surtout, il faudrait qu'il passe à autre chose, qu'il travaille sur les lois, on s'en fiche de ça, quand même, non?
Eh bien, ça, encore une fois, c'est une bonne conclusion.
Ouais.
Isabelle Sorrent, c'est à vous.
Alex, eh bien, je vais vous parler du sentiment donc de déjà-vu. Donc, vous savez, c'est ce sentiment qui nous saisit lorsqu'on a l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Alors, hier soir, j'étais dans le métro sur la ligne 4 et je me demandais de quoi j'allais vous parler aujourd'hui. Et voilà... deux types se sont mis à s'engueuler parce qu'ils voulaient le même strapontin. Et tout le monde autour était un peu navré parce que personne ne comprenait vraiment lequel des deux avait raison. Personne n'avait vu le moment fatidique où celui qui méritait d'être assis s'était avancé. Et toc, celui qu'il ne méritait pas s'était glissé comme un serpent entre le corps de celui qu'il méritait et la place assise qu'il ne méritait pas. Ce qui avait déclenché une vague d'insultes et de haine digne d'une dispute entre Cain et Abel. C'est les hommes, c'est la ligne 4. Et nous, les autres, les témoins, on regardait ça d'un air désolé parce qu'on savait très bien qu'on aurait pu être l'un ou l'autre de ces types. Et c'est là que j'ai eu le sentiment que j'avais déjà vécu ce moment. Et ça n'était pas « j'ai déjà vu ça des dizaines de fois sur la ligne 4 ». Non, c'était bien cet instant précis où ces deux hommes, l'un portait une barbe très bien taillée et l'autre un blouson de cuir. Ces deux hommes se battaient pour un territoire, les hommes, même si ce territoire faisait une dizaine de centimètres carrés. Alors, j'avais déjà vécu ce moment, j'avais déjà admiré le visage de l'homme à la barbe bien taillée, j'avais déjà pensé la même chose devant la même scène. Alors, le sentiment de déjà-vu intrigue les philosophes depuis l'Antiquité. S'agit-il d'une partie de notre conscience capable de sortir du corps pour voir les choses de haut, d'un souvenir de vie antérieure, d'où vient ce sentiment que soudain, le rideau du temps se déchire? Un peu comme dans un coup de foudre, quand on a le sentiment d'avoir déjà vu la personne. Alors, vous le savez, dans cette émission, nous nous faisons un devoir de comprendre les choses les plus bizarres. Donc, je me suis attelée sur les théories en vogue. La première explication du déjà vu, elle est biologique. Le sentiment de déjà vu, c'est le cerveau qui déraille à cause de choses comme le stress, l'ivresse ou la fatigue. Notre cerveau confond alors le présent avec un souvenir. Et je dois avouer que cette explication me laisse sur ma faim, parce qu'elle ne dit rien de la mystique du déjà vu, de la fascination, ni du sens profond que nous accordons immédiatement à cet instant déjà vécu. Il y a une autre explication qui tient cette fois aux univers parallèles. Vous savez que les physiciens, Alex, pensent aujourd'hui qu'il n'existe pas, je sais que vous le savez, que vous l'avez déjà vécu, qu'il n'existe pas un univers mais plusieurs. Dans l'une de ces théories de multivers, chaque fois que dans cet univers-ci, un événement a failli se produire, Juliette, il s'est effectivement produit dans un autre. Par exemple, vous étiez très amoureuse de quelqu'un en terminale et vous n'avez jamais osé le lui dire. Eh bien, dans un autre univers, vous avez probablement osé, vous avez 4 enfants et une maison en Normandie et c'est horrible. Ou bien, vous avez traversé trop vite et une voiture a failli vous renverser dans un autre univers. Malheureusement, vous n'êtes plus de ce monde. Heureusement, c'est un autre monde. Au fond, la vision des physiciens n'est pas loin de celle des anciens mystiques. Les événements de notre vie ne sont pas si solides qu'ils en ont l'air. Ils n'ont qu'une réalité probable, pas absolue. Mais il y a aussi des univers, et c'est la plupart d'entre eux, où nous sommes en train de faire exactement la même chose qu'en ce moment. Par exemple, en ce moment même, une autre Isabelle Sorrente est en train de lire cette chronique. un autre Alex Vizorek est en train de rigoler doucement derrière le micro, et un autre vous-même est en train d'écouter ça et d'éprouver exactement les mêmes sentiments que ceux que vous éprouvez en ce moment. Oui, vous avez déjà entendu ça, oui, vous avez déjà vécu ce moment, c'est une sorte d'écho entre les univers parallèles. Et un autre Donald Trump envoie des tweets haineux à un autre homologue coréen, et un autre Emmanuel Macron prend le thé avec une autre Angela Merkel. Les indicateurs du CAC 40 et les poèmes de Michel Houellebecq se répètent à l'infini. Et il n'y a peut-être qu'une seule chose à retenir dans ce grand bazar des possibles, une seule chose qui reste toujours vraie. Nous sommes multiples, nous sommes infinis, nous sommes libres.
Yeah!
Merci Isabelle Sorrent. On rappelle que vous revenez d'Amsterdam.
Non,
j'ai mis la main sur quand même de la toute bonne. Et en tout cas, ça nous fait bien réfléchir. Vous êtes dans un univers parallèle, Laetitia Doche?
Bon, à part ça, que quand on lit, ça fait un peu mal au ventre à des moments. Je me dis, ah, j'ai une deuxième personne qui
exactement. Oui, oui, mais c'est vrai.
Ça fait mal au ventre.
C'est inspirant pour la fiction aussi, moi, je trouve.
Bah après, j'adore. Actrice, c'est un peu ça, par ça. Ouais, ouais. Sans vouloir rentrer dans la psychologie, il y a de ça, quoi.
On va prendre un sujet beaucoup moins psychologique. Ce d'accord. Troisième sujet, là, je peux vous dire qu'on s'est dit, c'est le dernier de la semaine. On va prendre un truc hein, qui va changer le monde. Si la vie quotidienne fonctionnait comme Wall Street, les prix évoluant seconde par seconde et nous spéculerions sur les hausses et les baisses, eh bien, un café parisien propose ce concept. Donc, voilà, vous avez envie d'un expresso, eh bien, il faut bien analyser la courbe.
Cette courbe qui descend constamment.
Il est clair que ça va mal.
Oui, enfin, et ça continue à descendre.
Le diagramme est assez long.
Comme vous pouvez voir, ça descend toujours.
Effectivement.
Et là, ça descend encore.
Eh ben, on l'a perdu dans l'escalier.
Ça descend toujours.
Alors, nous avons demandé à un citoyen. Allô.
Alors, vous voyez, je suis dans les bouts et la courbe descend toujours.
Merci, ça nous donne une idée.
François Pérusse et ses 2 minutes du peuple. Est-ce que vous aviez entendu parler de ce genre de bar?
Non, mais en fait, j'ai lu l'article que vous m'avez passé. Enfin, j'ai commencé, j'ai balancé par terre. J'ai détesté, je n'ai pas envie d'en parler. Mais je peux quand même répondre.
Mais vous jetez nos articles, mais qu'est-ce que c'est?
Je suis désolée.
Non, mais on est où ici? C'est quelle quoi cette gauche là qui veut même pas s'intéresser au sujet?
Je suis désolée. Ouais, mais... ça a été plus fort que moi, quoi.
Mais, d'accord, Laetitia, moi je suis d'accord avec vous, en règle générale. Mais est-ce que c'est bien pire qu'un truc qui s'appelle bar à ongles ou bar à chat?
Bar à chat, c'est quoi?
Ah, c'est un bar où tu caresses des chats.
Avec un petit chat, ils sont trop mignons. Il y a le rouge, il y a le
blanc. On serait plus bar à chat.
Voilà, c'est un jeu.
C'est l'imagerie capitaliste ou c'est l'imagerie justement de Wall Street qui vous a ennuyé?
Vraiment, je sais pas, c'était vraiment épidermique, j'arriverai pas à vous l'expliquer. Je me suis dit, non, mais sérieusement, ils peuvent pas prendre des pauses, les traders, ils peuvent pas faire autre chose.
Ah non, c'est pas les traders qui doivent y aller, c'est vous.
Pas
lui
fallait lire.
C'est pire, c'est des wannabe traders, voilà. C'est-à-dire des gens qui font tout autre chose dans la vie, oui, des gens plutôt jeunes qui se retrouvent en bande de garçons.
Pourquoi de garçons?
Bah, des filles. Parce que c'est dit dans l'article, Alexa.
Moi aussi, j'ai jeté, parce que par solidarité envers.
Moi, j'aimais bien le loto, tous ces trucs-là.
Donc vous pourriez plutôt aller dans un bar où on joue au loto.
Oui, voilà.
Voilà, on boit son petit café, on regarde un tac au tac.
Oui, carrément.
Et voilà, la Française des Jeux nous salue et nous vous remercie. Bon, écoutez, vous savez quoi? On va pas s'emmerder avec ce sujet.
Hein. Je suis désolée.
Ben voilà, l'autre, elle a pas lu, l'autre, n'arrive pas à le vendre, les autres, ils s'en tapent, Fromet, il dit, mais c'est pas vrai, c'est quand mon tour. Donc, eh ben, c'est maintenant, mon gars, c'est maintenant. Frédéric Fromet derrière vous, vous connaissez les sites?
Bonsoir.
Laetitia Doche.
Bonsoir.
Et chaque semaine, il croque l'actualité avec sa guitare. Alors, de quoi allez-vous nous chanter?
Je vais tout simplement essayer de redorer l'image de Lactalis.
Ah, merci.
C'est du boulot, ça.
Lait du lait du lait, lait du lait, buvez du lait. Lait du lait, buvez du lait. Buvez du lait, Lactalis. Lait du lait du lait, lait du lait, buvez du lait. Lait du lait, buvez du lait. Buvez ce lait, quel délice, du bon lait. Lactalis pour choper la chiasse. Une gastro bien dégueulasse. La salmonellose, ça sent pas la rose. Dites-moi, pourquoi faire tout un fromage d'une affaire de l'étage? C'est quoi ce bordel? Je lance un appel à Laura Fessel. Lait, du lait, lait, du lait, buvez du lait. Lait, buvez du lait, du lait. Du bon lait contaminé. Lait, du lait, du lait, lait, du lait, buvez du lait. Lait, du lait, buvez du lait. Du lait d'une vache exploitée, la blanchette inséminée à répétition, une machine de compétition. Pour l'industriel, c'est rien que des mamelles à faire du lait, pourri vendu par les enseignes, qui se foutent que les gens saignent, qu'ils ruinent leur santé, tant qu'ils claquent leur blé au supermarché. Attention, c'est le refrain. Lait du lait du lait, lait du lait, buvez du lait. Lait du lait, donnez du lait à vos bébés dont vous ne voulez plus. Lait du lait du lait, lait du lait, buvez du lait. Lait sur les briques de lait, lirons-nous un jour boire du lait tu. Les produits beignets sont nos ennemis pour la vie. Merci.
On revient demain, Alex.
Encore ?
Bien sûr, oui, c'est une façon de vous dire que cette émission est terminée.
Oui.
Et on va compris. Retrouver demain, attention, Rock Voisine.
Et voilà.
On l'a retrouvée après tant d'années. Et puis Victoria Abril.
Ah bah, écoutez, là, ça me fait plaisir, dites donc.
Très bien, eh bien, rendez-vous demain.
À demain.